La cassure, la coupure dans l'année, là, c'était quand même Guelmiqué. On peut commencer par ça, non? Hein? Logiquement.
Le 27 septembre, non?
Le 29?
C'est là qu'il y avait tous les déménagements.
Voilà. Bon, qui c'est qui se jette?
Qui c'est qui démarre?
Qui c'est qui se jette? Qui c'est que je peux... pour n'importe qui, mais ça n'a pas d'importance pour quelqu'un. Moi, Jean, tiens, tu commences, parce qu'il faut toujours que quelqu'un se jette et que quelqu'un, une fois que c'est commencé...
Tu veux que je commence?
Que tu parles, justement,
on parle de
tes souvenirs de Michel d'abord,
ouais.
Peut-être.
Hein? Oui. Disons que, enfin, ça, je vais peut-être le dire en français, parce que c'est assez technique. Le Saint-Michel, c'était la fin des bœufs, hein, dans le domaine rural, pas seulement dans le domaine rural pour les fermes, mais pour les bœufs, de façon générale, les bœufs qui étaient de 3, 6, 9 ans. Et les échéances arrivaient au 29 septembre. C'était traditionnel. Alors, c'est vrai, les bœufs naguère, notamment dans le domaine rural, elles ne se présentent pas comme aujourd'hui. Le changement au niveau du bail était très lourd pour les locataires, beaucoup plus lourd, puisque les nouvelles lois sur le fermage dans le domaine agricole sont arrivées seulement après la libération, avec les lois Tanguy-Pigeon. Mais avant, les propriétaires dans le domaine rural étaient beaucoup plus bénéficiaires au niveau des baux ruraux. Ils s'appesaient très lourdement sur les exploitants. Il faut se rappeler ça. Donc l'arrivée de la Saint-Michel pour les exploitants, c'était parfois quelque chose de pénible, parce qu'il fallait abandonner l'exploitation. Et à l'époque, on abandonnait aussi les investissements qu'on avait faits, pratiquement sans compensation, aux propriétaires des biens sages. C'était extrêmement lourd, donc, pour les locataires. Donc, on commençait le mois d'octobre, après, déjà avec une vision assez pessimiste des choses. C'était déjà une entrée en matière pour les mois en noir, en quelque sorte. Et l'arrivée de la Saint-Michel, c'était une échéance qui était redoutée, d'abord pour la fin des baux, et en outre pour la réévaluation des loyers. Il y avait les deux choses qui pesaient sur les exploitants agricoles, donc très lourdement, donc avant la guerre. Donc c'est ça, la Saint-Michel.
Est-ce que... est-ce qu'il y a des gens ici qui ont dû quitter des fermes au moment de la Saint-Michel, des locataires? Ouais, toi, ouais. Vas-y, tu racontes.
Moi, je n'ai pas connu, comme dit Jean,
la
période où il n'y avait pas de loi pour régir les fermages. Donc, je suis peut-être... mais je sais que... entendu mes parents, mes grands-parents en parler, que il fallait, c'était une ligne qui était tracée par les propriétaires, il fallait la suivre, à partir du moment où on transigeait un peu sur, soit sur les cultures, soit sur pas mal de choses, eh bien on est des tributaires de peut-être de la mauvaise humeur ou enfin. Et souvent, on trouvait des personnes qui devaient changer de ferme à cause de ces conditions.
Donc finalement, ils n'avaient pas le temps de se retourner, ils n'avaient pas pu commencer à chercher déjà une
autre habitation. Ça se préparait quand même quelques mois à l'avance, mais seulement quelques mois, pour certains. C'est ça que... pour des causes diverses, ne serait-ce que tout en dehors de la question de fermage.
Vas-y, continue, Jean.
Je disais que pour des causes qui sont des fois étrangères au prix du fermage, et à la cause du fermage, ils pouvaient être balancés pour... même des fois sans raison.
Charles-Michel,
Charles-Michel, Charles-Michel, Charles-Michel, Charles-Michel, Charles-Michel, Charles-Michel, Charles-Michel, Charles-Michel, Charles-Michel, Charles-Michel, Charles-Michel, Charles-Michel, Charles-Michel, Charles-Michel, Charles-Michel, Charles-Michel, Charles-Michel, Charles-Michel, Charles-Michel, Charles-Michel, Charles-Michel, Charles-Michel, Charles-Michel, Charles-Michel, Charles-Michel, Charles-Michel, Charles-Michel, Charles-Michel, Charles-Michel, Charles-Michel, Charles-Michel, Charles-Michel, Charles-Michel, Charles-Michel, Charles-Michel, Charles-Michel, Charles-Michel, Charles-Michel, Charles-Michel, Charles-Michel, Charles-Michel, Charles-Michel, Charles-Michel, Charles-Michel, Charles-Michel, Charles-
Ça, c'était très court. Chaque année, enfin, dans chaque commune, il y avait une ferme ou deux qui changeaient de place pour aller dans les autres communes, quoi. Et là, pour le déménagement, on rassemblait tout. Il n'y avait pas de camion, pas de voiture. C'était tout fait par charrette, quoi. Alors, il fallait déménager tout, puis ça commençait tôt le matin. Et dans la ferme qu'on arrivait ou qu'ils allaient, quoi, on mangeait midi. Le premier déménagement que j'ai vu, c'est quand ceux qui arrivent sont partis là. Il y avait Roland là qui était parti à Cafantin, quoi.
Et moi, j'ai connu aussi.
Oui, il y avait Roland à Cafantin dans le temps, quoi. Non, à Cahul, là, quoi. Ceux-là sont partis à côté de Penneville, là-bas, à Cafantin, quoi. Oui. Avant que Cattel. Et les deuxièmes que j'ai vus, c'était du bout de la route chez nous, c'était Tassé, Pyrénique Tassé, qui était, non, la cousine Pyrénique Tassé, qui était dans le Gall, qui s'est partie à Elian.
C'était ta mère.
Enfin, j'ai vu dans ma jeunesse trois ou quatre déménagements comme ça, quoi.
Et alors les troupeaux? Et les troupeaux? Donc les meubles, les affaires étaient transportés par charrette, mais et les vaches?
Oui, il fallait des charrettes pour déménager tout, quoi. Les troupeaux, quelquefois, étaient envoyés à pied. Si ça n'allait pas trop loin, quoi, on envoyait les troupeaux à pied, comme ça, quoi. Mais tout se chassait dans les charrettes comme on pouvait, quoi. Alors, il y avait quelquefois 20-30 charrettes, comme ça, qui se suivaient, quoi. Puis, arrivé dans le lieu qu'il y avait, il y avait des gens qui avaient déjà préparé le repas. Là, quelquefois, il était 2 ou 3 heures, ou peut-être plus tard, on mangeait le repas. Puis, les gens venaient à la maison en faisant plus ou moins la foire. On s'arrêtait dans les bistrots un peu, quoi. Puis, c'était la fête, quoi, du jour.
C'était surtout la solidarité, quoi, parce que les gens, hein? c'était l'entraide. C'était les charrettes qui étaient là. C'était l'entraide.
Oui, pas des charrettes caoutchouc, mais c'était les vulgaires charrettes qu'il y avait dans le temps, quoi.
Qui y est mal les Jacques.
Oui, pas ça, quoi.
C'était festif, quoi. C'était un petit peu, quoi.
Voilà, oui, un peu, oui.
Ben, ça dépend, parce que je
quand
pense...
Quand on avait été charroyés pour aller à Cafantin, là-bas, les vieux allaient dans la même charrette. Alors, il y avait un louche Leston, là, le meur. Il a dit, moi, je vais avec Van Schick dans la charrette. Et lui, il avait un cheval. Lui, il n'avait pas envoyé les charrettes, mais il en avait une des charrettes de Carule, quoi. Alors, il me dit, moi, je vais dans la charrette. Il me met sur le dos le cheval. On était venu par Quimper. Traverser les rues, Quimper, son cheval allait avec moi, quelquefois presque sur les voitures, un peu partout, les voitures, certains klaxonnaient, personne ne disait rien, quoi. Il fallait venir à la maison comme ça, quoi. Les deux autres étaient dans la charrette, quoi, en train de discuter. C'est le cheval qui conduisait tout seul, quelquefois. C'était pas... Les chevaux venaient de la voiture tout seul.
Ils savaient la route, quoi.
Ouais. Ils savaient les routes. Ouais, les chevaux venaient de Quimper, où ils avaient l'habitude, tout seul.
Vous arrêtez aussi?
Ah oui, s'arrêtez dans les bistrots, parce qu'on s'arrêtait beaucoup dans les bistrots. Alors le cheval, quand il était venu jusqu'au bistrot, je me rappelle, le père m'avait envoyé un père chercher de l'engrais, c'était chez Bouis là. Et en venant à la maison, je ne sais pas où, à l'Enehis ou quelque part, le cheval avait dû s'arrêter là. Rien à faire pour le faire partir. Ici, qui avait passé son temps là, un peu, quoi. Et c'était l'habitude des chevaux, quoi.
Comment est-ce qu'on trouvait sa nouvelle ferme? Est-ce qu'il fallait aller se présenter?
Ah oui, pour lui parler. Ouais. Mais parle à tout le monde.
Donc je te demandais comment est-ce qu'on trouvait sa nouvelle ferme? Est-ce qu'il fallait aller se présenter, dire d'où on venait, parler?
Il fallait trouver un propriétaire. C'est voilà. Ça que tu veux dire?
Voilà, oui, comment...
Il n'y avait pas des foires pour ça?
Oui, comment on trouvait, comment quelqu'un qui devait quitter une ferme trouvait une autre ferme?
Un an à l'avance, je voyais le notaire. Et c'était prévu quand même, au moins un an à l'avance.
Comment que tu ne pas ta ferme, tu trouves une ferme? Comment on trouve une ferme à louer?
Ben, je ne sais pas, il n'y avait pas de journaux à ce moment-là, beaucoup. C'est par intermédiaire des notaires ou d'autres choses comme ça, quoi, les gens. Enfin, il y avait le journal du samedi, quelquefois c'était le, je ne me rappelle plus quel nom, le Progrès ou machin. Et sur cela, quelquefois, ils trouvaient des annonces, quoi. Parce qu'il n'y avait pas d'autres communications, quoi, pour savoir, quoi.
Il
Et ah oui, est-ce qu'il n'y a pas des gens par là qui ont en mémoire des Wilmiké tragiques avec dans les années 30 là, où les gens faisaient plus ou moins faillite ou ils devaient en catastrophe changer de Wilmiké quoi. Il n'y en a pas qui ont des souvenirs de ça.
Moi, j'ai dans ma commune. Oui. Je suis originaire de Poulaouen. Il y a eu, c'est vers 36, on reprochait à Pierre Laval, et on va la vérité réelle, et la crise qu'il y a eu. Et donc, il y a eu plusieurs personnes donc, qui tenaient des fermes et qui sont devenues ouvriers agricoles. Ils ont fait faillite. Et je me souviens, enfin, je n'étais pas présent moi-même, mais mes parents y étaient. C'était dans un petit village, et il y avait Tanguy Prigent, qui est devenu ministre de l'Agriculture après la guerre, là, qui était venu là, en fait, pour contester un peu que l'agriculteur était obligé de partir. Quoi. Et il a fait une quête, et je me rappelle que mon père me disait Tanguy Prigent était comme ça, comme la quête ne rapportait pas grand-chose, ils ont une pierre à la place du cœur, qu'il disait. Parce que enfin, tous ceux qui les anciens ici ont entendu parler de Tanguy Prigent. Oui, hein. Oui, c'était oui. Une personnalité. Oui. Mais j'ai vu pour on dit Lojadec, moi-même, donc c'était le village d'à côté, il y avait une fille qui avait 20 ans par là et qui était malade. Eh bien, il a fallu mettre son lit sur une charrette à deux roues et elle était dans son lit et il y avait 5 km à peu près à faire et elle est morte deux ou trois mois après. Mais enfin, c'était vraiment pas le standing. C'est vraiment le malheureux d'être obligé. De...
Bon, on passe peut-être.
Je ne sais pas vous qui parlez de ça.
Il y a eu des années difficiles, 34, 35, 36, c'était très difficile à la campagne. Où beaucoup ont été obligés de. Des fermes qui étaient tombées, quoi. Ils ne pouvaient plus payer, quoi, soit leur loyer, soit pour les
moi, j'ai un vieil oncle qui est parti en 1930, dans les années 30, comme ça, à Bordeaux, avec ses chevaux, ses bestiaux, ses charrettes et tout son matériel dans un train. Il a loué un train parce qu'il avait trouvé une ferme dans la région de Bordeaux.
C'est pas en Dordogne ?
Talence.
Ah, Talence
de Bordeaux.
Ah, oui, c'est. Oui.
Mais bon, tout transformé dans un train.
Il n'y avait pas seulement les locataires des fermes qui avaient problème. Il y en avait également au niveau des propriétaires, ceux qui avaient fait un héritage, entre autres. Puisque lorsqu'il y avait de mauvaises années, tu parles des années 30, effectivement, il y avait de mauvaises années, donc il n'y avait pas de rentrée, mais ils s'étaient quand même obligés de payer leur part, comme on dit, à ceux qui, pour lesquels ils versaient des rentes. Et c'était fréquent autrefois, ça aussi. Et quand ils ne pouvaient plus verser leur rente, il suffisait que l'un des bénéficiaires aille au tribunal pour faire vendre la ferme. Et le résultat était le même pour l'exploitant. Il était obligé de partir aussi, hein, bien qu'il était propriétaire.
C'est l'histoire de ma grand-mère du Pradel.
Voilà, voilà. Ça se passait comme ça aussi.
Casque à Val.
Ça s'est passé beaucoup à cette époque-là. Mais à la fin du 19e siècle, ça a été très... très fréquent, surtout à la fin.
Et pour ceux qui restaient dans leur ferme, qui pouvaient, eux, continuer les travaux, donc qu'est-ce qui se passait donc, après la Saint-Michel?
Quels travaux, tu veux dire? Qu'est-ce qu'on faisait comme travaux
Les travaux d'hiver.
Les broussailles, non?
Quelle balle d'avoir.
Voilà, nickel,
et puis les betteraves. Et puis le soir, on faisait le cidre.
Les betteraves, c'est vrai.
C'était en décembre. Et les
Pour les betteraves, il y a des gens du pays ici qui allaient dans le nord de la France faire les récoltes de betteraves. Mon grand-père est dans les Chicas. T'as connu l'Oasmeur, non? Mon grand-père, l'Oasmeur.
C'est qui notre enfant? Attends. On va essayer de faire quelque chose. On va essayer de parler chacun à son tour.
Ouais, comme à l'école.
Et quand quelqu'un parle, on va essayer d'écouter, hein, parce que autrement c'est difficile. Donc il y a Jean Lerest qui a posé une question là.
Ah non, Exchiquette. Oui. T'as connu l'Oasmeur autrefois? L'Oasmeur. Mon grand-père.
L'Oasmeur.
Oui.
Ouais,
parce que j'étais cantonnier, tu sais.
Je l'ai vu travailler chez moi, et tu sais pas comment, on les connaît beaucoup.
Vas-y.
On venait au catéchisme de Bourg ici, et au vélo, et on n'avait pas le droit de venir jusqu'à chez ton grand-père là-bas. Alors il fallait qu'on mette le vélo là-bas.
Ah, ouais.
Donc je le connaissais. Ton grand-père travaillait, il était vieux, il travaillait beaucoup dans les fermes encore.
Ouais.
Et sa mère, comment on l'appelait, sa femme.
Bonjour,
oui. C'est là quand on mettait les vélos là-bas, elle était toujours, ben oui, là qu'elle mettait là, oui, prendrait quand vous rentrez, quoi. Et on venait à pied.
L'Oas allait ramasser des betteraves dans l'Aisne régulièrement.
Prenez 10 millions. Attends, ouais, alors, il dit que.
Pour faire un peu d'argent.
L'Oas allait dans l'Aisne.
Ramasser des betteraves. C'était à partir de la mi-octobre jusqu'à la mi-novembre.
Oui, mais je veux dire quelles années. Je ne sais pas, il n'y avait pas de vaches là-bas dans le Pentil.
Il n'y avait pas de vaches, non. Non, il n'y avait pas de vaches. Il avait un tout petit jardin avec un prunier, et quand il y avait des prunes, on allait les vendre à l'estagnant.
J'ai vu ton grand-père travailler chez moi à la ferme. Ton grand-père, il faisait journalier dans les fermes, il était venu vieux là-bas.
Oui. Il est mort d'une appendicite à 63 ans.
Et comment est-ce qu'il faisait pour aller dans l'Aisne là? Il partait en train?
Il allait prendre le train. C'est pas en cassant des cailloux au bord de la route comme il se faisait au mètre cube qu'il se faisait une fortune.
Et par les 35 heures, hein, Jean.
Alors, quand on entrait plus profondément dans les mois noirs, hein, donc, est-ce qu'on peut essayer de se rappeler quel était le rythme d'une journée? Puisque, donc, évidemment, le soleil se lève tard, il se couche tôt. Quel était le premier travail qu'on faisait?
De toute façon, il faut commencer par les bêtes.
C'est toujours les bêtes.
C'est toujours les bêtes à vous
commencer. Toujours.
Trois quoi que notre âme, Tommy?
Pas le matin.
Non, mais attends. Excuse-moi, comment t'as dit?
Comment commencer la journée?
Journée d'hiver.
Le matin quand on se lève, les femmes elles vont faire les vaches et les hommes ils vont donner à manger aux chevaux. Ça commence comme ça,
oui,
non?
Oui,
l'été.
L'hiver.
Ah mais l'hiver, il n'y avait pas de trèfle pendant l'hiver.
L'hiver, il n'y avait pas de trèfle alors.
Il fallait bien nourrir les chevaux quand même.
Tout le monde s'appelle Jean ici. Hein. Qui s'appelle pas Jean?
Donc à Jean, à Les Ornaf, il va nous raconter un petit peu comment ça se passait les journées en hiver. C'est plus simple comme ça parce que si tout le monde parle en même temps, on va pas comprendre. Ça va comme ça?
D'abord, on donnait à manger au chaud. Ça donnait quand? C'est-à-dire les femmes allaient faire les vaches. Et puis. Les femmes allaient traire les vaches et puis les hommes allaient donner manger au chevaux. Le charretier qui donne manger au chevaux, il met le bras, il a des coupes du bois pour faire des crêpes.
On va laisser Jean continuer. J'avais pas d'idée.
Et dans les écuries, il fallait, quand on donnait manger chaud, il fallait les étriller. Ah oui. Bon, ensuite, alors, puisqu'il n'y avait pas d'électricité, il y avait un grand fil de fer qui traversait devant les écuries, et puis il y avait une lanterne tempête qui était accrochée à un fil, et puis on promenait ça devant les stalles.
Ouais.
Et puis on mettait,
voilà, peu mesure,
on mettait la lumière devant pour voir où le cheval était crotté. Alors il fallait les trier, il fallait lui faire sa toilette. Et avec ça, on avait plein le nez.
Et qu'est-ce qu'on leur donnait à manger en hiver alors?
On a du foin.
Du foin.
En général, on donnait le bon foin chaud, puisque c'est les chevaux qui travaillaient. Et les vaches, ils avaient une portion maigre. Tout ce qu'il y a qu'on donne aux vaches. On donne un peu de betterave aussi, un peu de betterave, puisque c'est pour là les betteraves étaient rentrées. Et puis on donne aussi des choux. On allait, tous les jours, on allait chercher des choux au champ. Et puis ensuite, on les amenait à la maison. Et on brouillait des choux avec il y avait une machine qui brouillait les trognons de choux en 8 morceaux.
Ah oui.
C'était une machine spéciale.
C'est pas celle qui coupait les betteraves aussi?
C'était la même. C'était la même machine qui servait à...
Il y avait une, on poussait le chou dedans.
Ah oui, mais ça dépend. C'était en 8 morceaux.
Un glouton, on appelait ça.
Et on donnait ça aux vaches. Et en général, on donnait ça aux vaches en... C'est-à-dire... dans la soirée plutôt.
Les choux et les betteraves. Alors là, peut-être c'est les dames qui ont peut-être des souvenirs d'avoir été arrachées les feuilles de choux. Alors pourquoi tu étais torse nu?
Je tire et tout, je mets ma chemise en souche pour le trouver sèche après quand j'ai fini.
Parce qu'il faisait pas très chaud.
Oui.
C'est parce que toute l'eau coulait.
Oui.
C'est pour ça où les jeunes, ouais. Le mive et le bras, puis les machins, on ne voyait pas ramasser les sous. Hein. C'est les bouches, et puis les jeunes, ou bien les bonnes.
J'avais 17 ans à cette époque-là. On m'a envoyé avec le domestique, mais le bras, c'est couper la langue. Pour apprendre, tu sais quoi. Et mes bras, il pleuvait trop, on va rentrer à la maison. Mais le bras, il va fondre du bois dans la langue. Le patron me dit, il va ramasser la boue sur la cour, maintenant il peut plus la ramasser, parce qu'il est mouillé. Parce que quand c'est sec, il ne faut pas rien la ramasser. J'étais avec un sac sur ma tête, un sac de riz sur ma tête, ramasser la boue dans la cour. Oui. Mes bras à l'abri, fendre du bois dans la langue. Oui. J'avais 17 ans.
Il y avait des hommes capables pour qu'elles travaillent, alors qu'on laissait le petit bouche tout sur la pluie pour soigner les bêtes. Et les hommes étaient bien à l'abri, la pluie et la pluie.
Je vais aller dans le même sens, Suzanne. J'ai une des sœurs, ma mère, qui était née en 1900. Et elle était bonne dans une ferme qui a Ménénec pendant la guerre 14. Et elle avait une seule tenue pour mèche. Et on l'envoyait le matin ramasser les choux tout mouillés dans les champs. On l'envoyait ramasser des feuilles de choux et elle restait toute la journée avec sa tenue. Je peux vous dire que jusqu'à ses 90 ans, elle allait régulièrement aux réunions de la CGT à Saint-Brieuc. Et je la comprends. Ah, tu la comprends. Et je la comprends. Et son fils était rédacteur en chef d'Ouest Matin. Et je le vois régulièrement.
Mais Jean, c'est ça qui explique son grand âge aussi.
Peut-être. Mais c'est dire quand même que les petites bonnes, on parle de la situation des jeunes actuellement, et les petites bonnes dans les fermes à l'époque, c'était pénible. C'était pénible. C'était rude. Hein, et l'Enlec disait bien les choses. Il y a certains qui pouvaient faire, par exemple, le mévé le bras aurait pu donner un coup de main, mais il n'allait pas s'occuper de ça. Il avait sa place.
C'était
très hiérarchisé. Quoi.
Je pense que ça dépendait des fermes aussi.
Oui. Mais
ça dépendait des fermes, mais et des personnes. Ça dépendait des personnes. Moi, je dois dire que chez toi, moi, j'ai souvent entendu mon père dire, lorsque Marie est venue, tout a changé. Moi, je le dis, hein, ça a été. Moi, j'entendais le père parler à la maison.
Le rayon de soleil.
C'était le rayon de soleil.
Mais j'étais petite, alors j'étais tout mouillée. Il me dit, moi, Marie, j'enlevais tous mes habits, je les mettais sous ma touche, personne ne me voyait, et quand pour avoir des vêtements secs, parce qu'il n'en avait pas d'autres.
Ah oui,
c'était surtout que les gens n'avaient pas de
tenue. Ils n'avaient pas de tenue de rechange. Ils avaient une seule tenue, ils faisaient avec.
Il n'y avait pas de
botte. Il n'y avait pas de botte, il n'y avait pas d'avalanche, il n'y a rien. Il n'y avait
pas de plastique.
Il habite, ses parents étaient une petite maison à côté de quoi, Saint-André. Là.
Moi, j'ai habité dedans.
On est quoi? Oui, Maricot,
moi, j'ai habité dedans.
Ben, il était pour Saoud à Canon. Je le vois encore aller tirer des feuilles de chou à côté de Kenkras et le voir le champ le plus loin de chez Kwané. Et tout trempé, mais il n'avait pas d'habit de rechange. Donc il restait avec ça toute la journée. Et comme on a dit tout à l'heure, ben, le Mabelbras, oui, c'est lui qui était à l'abri. Et lui, quand il pleuvait, il était là, envoyé le foin le soir et puis sous la pluie. Personne ne l'aidait, pour ça, il faisait tout.
Soyez il m'a dit en plus. Et il m'a dit qu'il y a les bras.
Attends, il vient de dire.
Ouais, on peut parler un peu des fermes, donc des bâtiments.
Oui,
les quatre premiers hangars agricoles, c'est la Belaine qui a été construite.
Et à quelle année ?
29. 29. Et chez nous, ça a été construit en 31.
Et comment on fait là ?
Comment ? Tout était dehors.
Tout était dehors.
Tout était dehors. Mais les tas de paille, ils étaient faits parfaitement. Ça, c'était de l'art. Peut-être que les hommes là, peuvent expliquer comment était fait. C'est pas les miches dues, puisque c'était fait en... Mais ça n'a pas trop d'importance. Est-ce que tu veux revenir
Je pense qu'ils étaient plus utiles encore aux miches dues que...
Oui, c'était utile, et c'était utile pour les miches dues, comme tu dis, que les tas de foin et les tas de paille sont bien faits. Alors peut-être que les hommes sont dans le coin, on n'a pas raconté comment on faisait les tas. La technique.
Comment on fait des tas de foin? Comment on fait des tas de foin dehors?
La bien de foin,
il fallait quelqu'un qui ne laissait pas tout le monde faire les tas de foin. Parce qu'il fallait être habitué. Et moi, j'ai appris très jeune parce que mon père n'a jamais voulu faire les tas de foin. Et lui, il s'est à la fourche autrement. Quoi. Il y avait d'autres qui faisaient. Et j'avais commencé à 14-15 ans à faire les tas. Et c'était arrivé que dans les autres fermes, ici, dans tout, on s'entraidait. Moi, je n'avais qu'une solution, c'était prendre la fourche et faire le tas, quoi. J'ai fait ça pendant... D'ici que les hangars sont venus après, quoi, que
alors, tout a changé, quoi. Tu veux bien expliquer par quoi tu commençais comment tu commençais la préparation, le tas
Le tas de paille se faisait sur le sol, là, on mettait rien. Mais pour les tas de foin, on mettait des rangées de fagots, quoi. Deux rangées ou trois, quoi, de fagots bout à bout, parce qu'il ne fallait pas que le foin touche le sol, quoi. Alors, on commençait là... Il fallait faire les côtés, c'est bien commencer les côtés du tas, quoi. Et celui qui le mettait dessus te dirigeait un peu, ici ça pousse trop, il fallait tenir le tas à peu près impeccable et monter assez haut, il fallait commencer à l'arrondir comme un toit, quoi, tout, quoi. Et les tas de foin se recouvraient avec de la paille après, quoi. Le tas de paille se laissait, c'est la paille qui faisait le toit, mais le tas de foin, pour ne pas abîmer le foin, on mettait une couche de paille dessus, tout, quoi.
Et alors oui.
Il y avait une règle aussi. Il y avait un secret pour eux, parce qu'ils étaient rares, ceux qui savaient faire un tas de paille qui ne prennent pas l'eau. Tas de paille ou tas de foin. Mais c'était rare. C'était... Alors, tout le monde était capable de faire un beau tas. Mais.
Le milieu trop creux, ça faisait des coupures, l'eau, il fallait bien tenir, tasser le milieu, surtout quand on commençait à monter, pour que ça fasse un dôme, quoi.
Oui.
Quoi.
Et que les pailles soient orientées vers le bas, oui, que l'eau coule le long de ce
oui, que ça coule, oui.
Ça, c'était le secret, hein.
Ah oui, fallait, si ceux pas qui faisaient bien le tas, c'est rare qu'ils prenaient de l'eau, hein.
Oui. Et c'est pour ça qu'il y avait des spécialistes.
Et ça, c'était capital.
Alors justement, donc, ces tas, ils étaient faits pour donner à manger aux bêtes l'hiver. Est-ce qu'il y avait une technique spéciale pour défaire après?
Avec une faux, on faisait la coupe dedans, quelquefois.
Oui. Tout le temps?
Oh, pas tout le temps. Non, dans certaines fermes, on le tirait à la main. Mais c'était assez dur. Oui. Oui. Ah, ouais.
Mais c'était avec une vieille faux, une lame de faux, et on faisait comme ça, là.
Oui.
Comme on fait avec une scie.
Oui.
Et bon, et on ne faisait pas toute la tranche. Hein. On faisait.
Oui, on prenait à peu près un mètre de tranche, un mètre de large.
Oui, oui. que c'était partout pareil. Hein.
Et on laissait, un bout.
C'était comme ça.
Voir de ce côté-ci, comment on faisait ici alors.
Je comprends bien, là il parle d'une frange qu'on coupait à la faux ou bien avec un pic, mais plus ancien, il n'y avait pas de faux, il n'y avait rien pour couper, ni, on faisait une frange, mais tout arraché à la main. Ah ouais. Alors, il y avait moins 5 ou moins 8 degrés dehors, arraché du foin. Attention, hein. Mais après, bon, on a trouvé une solution pour couper, faire une frange coupée. C'était net, quoi. C'était facile. Il n'y avait plus qu'à prendre les morceaux de paille ou de foin. Mais quand il fallait faire tout ça à la main, et, il fallait aussi faire attention que la frange ne parte pas un peu à la débine, parce que les enfants souvent. Hey, on prend un peu et puis on s'en va. Et après, quand les anciens arrivaient, hey, qui est-ce qui a été à prendre du foin là? Attention, hein.
Il fallait bien enfoncer la main dans le temps pour ne pas que la coupe dégénère. La coupe, on prenait plus ou moins en biais, on ne pouvait plus arriver en bas du tas, il n'était pas beaucoup plus large que la table. Au départ, c'était 1m50, 2m, quelque fois. Quand on tenait bien la coupe, elle menait jusqu'à terre comme ça. Ah oui, mais il y a certains apprentis qui ne savaient pas, des gosses ou bien. Ils avaient peur de mettre la main ou un poids de griffe, ou bien il y avait des orties dedans, ou bien des ronces. Alors, on faisait un peu, on dégradait alors.
Ben, le dimanche, on passe plus vite, on tire un peu juste les bois, quoi. Mais lundi, après, on a dit bon pour la soupe, quoi.
J'allais parler encore toujours, parce qu'on a parlé du foin, de la paille, on a parlé des choux. Je voudrais aussi qu'on parle des betteraves, puisque c'est pendant les mois noirs qu'on arrachait les betteraves. Si ma mémoire est bonne, il ne faisait pas chaud. Hein.
On va aller par ordre.
Les pommes, on ramasse les pommes avant les betteraves.
Et à quelle période à peu près, quel mois?
C'est octobre. Et puis on les laissait dans le tas. Et après, jeune viande qu'on faisait ici.
On faisait ici presque toute l'année. Hein.
Et justement, est-ce que vous pourriez dire les fermes qui faisaient du cidre à Herbier?
Tous les fermes, tout le monde les petits, tout le monde faisait du cidre. Tout le monde faisait du cidre.
C'était la boisson nationale.
Il n'y avait que ça.
Il n'y avait que ça.
Il
n'y avait pas une rue, des pommes.
Il y en avait peut-être, mais il y a des sous-pommes, on n'avait pas.
Mais
venait
qu'il n'y avait pas.
Est-ce que chacun avait le meilleur plus réputé qu'une autre?
Oui, il y avait plusieurs cidres, ça ne devait pas être pas.
Qui est-ce qui s'en tirait le mieux? Il peut y en avoir deux ou trois, peut-être.
Penrun, on est beaucoup ici aussi.
Non, il y avait du bon cidre dans certaines fermes, et puis il y avait d'autres qui étaient moins bons, mais de toute façon, tout le monde faisait son cidre, quoi. Tout le monde faisait son cidre. Alors, il y avait des fermes où il était plus au niveau.
Oui, c'est vrai.
Et des maisons aussi, d'ailleurs.
C'est vrai. À Penrun, je confirme, il y avait du bon cidre. Mais c'était fait à partir des pommiers de Léas Poulgouet. Donc, il n'existe plus qu'une toute petite partie, puisque le parking du bourg a osé empiéter sur les féorues qui étaient tout le long de la route. C'est bien ça. Il y avait un excellent cidre, parce que tu avais là un mélange de féorues, de féobris. Et puis, c'était humide, c'est un terrain. Poulgouet, c'est le truc des oies, quoi.
C'est la mare
aux oies. Donc, c'est un truc où il y avait de l'eau, quoi. Il y avait de l'eau là-dedans tout le temps. Et il y avait un excellent cidre. Il y en avait presque tous les ans, puisque le Léas Poulgouet est au fond d'un trou. Oui. Et lorsqu'il y avait de la gelée, elle était fondue avant que le soleil ne vienne taper sur les pommiers. Ce qui fait que les pommes tenaient mieux le choc. Hein.
d'ailleurs, vous voyez, produisait régulièrement. Parce qu'il était au fond du trou. Et
moi, je crois, enfin, c'est plus qu'on parle chez moi, en fait. C'est que on faisait du cidre, comme je disais tout à l'heure, presque toute l'année. Il y avait des pommatives, il y avait les Féhougen en particulier, tout ça qui faisait, bah, chez tes parents c'était pareil, chez d'autres c'était pareil, il y avait les Féhougen faisaient le premier cidre en général. Hein. Et puis après, alors, on avait des pommes comme les Féhobrige et tout ça qui arrivaient plus tard. Et puis, à partir de les pommes qui étaient ramassées tard, ces pommes-là, elles allaient jusqu'au mois de janvier, hein, elles attendaient à l'aise que. Mars, voilà. Mais tout le monde a fait du. Tout le monde ici a fait du cidre.
Mais on dit que le terrain aussi a joué un grand rôle.
Le terrain, l'ensoleillement, c'est évident que le terrain, la nature du terrain, on retrouve dans le fruit. C'est pour ça que justement, quand on parle de la culture bio et tout ça, c'est pas fou parce qu'il y a. Il y a ce qu'on met dans le sol, on le retrouve dans le fruit, quoi. Et donc la nature du sol, ça joue pour les pommes aussi. Et l'ensoleillement, puisque l'ensoleillement va donner la qualité du sucre. Mais après, moi j'ai toujours entendu mon père dire que ce qui était primordial, c'était la propreté.
Ah oui.
La propreté, c'était...
D'ailleurs, des bouillons de cru, disaient après... qu'ils savaient dans quelle ferme c'était bien fait, le site était bien fait, c'était propre, il y avait davantage d'alcool, tandis que certaines fermes se laissaient à désirer, et bien l'alcool aussi, ben, c'était pareil.
Oui,
et ils disaient que Pénère aussi, c'était un coin où il y avait beaucoup de... les pommes donnaient de l'alcool.
Ah oui, mais un site très alcoolisé n'est pas forcément...
Ça, la production de cidre.
Non. De l'Arctique, après.
Ah, oui.
Et quand les Pelletiers n'avaient pas le pot, on achetait le pot, oui, mes parents, ils prenaient chez Louis Prons à Kagan, et puis on disait, ben, c'est tant de pommiers à nous de se débrouiller, de faire la cueillette. C'était vendu comme ça, au moins un prix en gros.
Chacun
avait sa façon d'acheter, de vendre.
Ah oui, le laisser-passer ne fait pas déclarer la production. Quoi. Ah oui, le laisser-passer, c'est uniquement pour ceux qui...
transporter le cidre. Je me rappelle qu'un oncle à vous qui était là en Mélanie, il venait chercher le laisser-passer pour transporter le cidre.
C'était chez toi que ça se passait?
Il y avait le dépôt de...
C'était chez Bialy, comme on disait dans le temps.
Et après, pour l'eau de vie, pour l'alcool, c'était la même chose.
On va dire aux betteraves, alors, peut-être.
Ouais, parce que...
Les betteraves, alors, comment ça se passait?
Les betteraves, on tirait le matin et puis on les charroyait l'après-midi.
Cet après-midi.
On tirait, on faisait des temps et puis l'après-midi, alors, les tactiques, mais si je ne sais pas, on charrait l'autre. Tombereau, au moins, aussi.
Et les tas de betteraves étaient aussi dehors. Les tas de betteraves étaient également protégés de la pluie.
Du gel, parce que les betteraves, quand elle était tirée, quand il y avait du gel le matin, elle était gelée.
Et les mains étaient belles après, ouais, elles étaient gercées.
Moi je me souviens des mains de ton père.
Voilà. Elles étaient vraiment toutes crevassées.
Et comment on les protégeait alors?
Ah ben avec...
La protection des tas, c'était tout un art aussi. Tout à l'heure, là, on est parlé des tas de foin, de paille, mais la couverture du tas de betteraves, c'était aussi pareil. Il fallait d'abord mettre une couche de paille sur les betteraves, bien protégées. D'abord, bien ranger le tas, bien en prendre. Après, une couche de paille, une bonne couche de paille, et après, c'était des broussailles, quelque chose qui empêchait l'eau de rentrer. Mais toujours une bonne couche, comme on disait tout à l'heure, sur le foin, on mettait une bonne couche de paille pour empêcher de l'eau pénètre. Ici, c'était exactement la même chose. Et il suffit qu'un tas de betteraves, il y ait un trou, par exemple, que l'eau pénètre, et ben, un coup de gel, et puis ça y est, on a déjà un tombereau ou deux ou trois vite fait de geler, donc une betterave, surtout en ce temps-là, les betteraves qu'on avait, c'était des betteraves fourragères avec des taux de matière sèche en dessous de 10, donc plein d'eau. Et alors un coup de gel, et puis ça y est, tout le tas. Et après une betterave qui est pourrie, en pourrissait d'autres, et ainsi de suite. C'était là vraiment une grosse perte.
Ah, mais les nègres, on avait fait un temps dans l'allée, une année, en 61. Et c'est au mois de février qu'il y a eu le gel, là. Donc l'étang, que beaucoup connaissent, il a été tout gelé pendant tout le mois de février. Le tas de betteraves, il était dans l'allée. Il fallait aller à la pioche pour... Pourtant, on avait mis une bonne couche de lande dessus, mais il fallait aller à la pioche pour les décoller, encore. Enfin, tu décolles, tu en avais une douzaine en même temps. Et ça a duré 15 jours, 3 semaines. Ça va durer longtemps. Hein.
C'était un 60e, le
délai. Et alors, quand on donnait des betteraves aux bêtes, comment on appelle ça ? On les coupait en tranches ?
Aux betteraves, alors, peut-être ?
Ouais, parce que.
Les betteraves, alors, comment ça se passait ?
Les betteraves, on tirait le matin et puis on les charroyait l'après-midi.
Cet après-midi.
On tirait, on faisait des temps et puis l'après-midi, on les tactait, mais si je ne sais pas, une charrette d'autre. Tombereau au moins aussi.
Et les tas de betteraves étaient aussi dehors. Les tas de betteraves étaient également protégés de la pluie.
Oui. Et
alors, prononce.
Et du gel. Parce que les betteraves, quand elle était tirée, quand il y avait du gel le matin, elle était gelée.
Et les mains étaient belles après. Ouais, elles étaient gercées.
Moi, je me souviens des mains de ton père.
Voilà. Elles étaient vraiment toutes crevassées.
Et comment on les protégeait alors?
La protection des tas, c'était tout un art aussi. Tout à l'heure, là on est parlé des tas de foin, de paille, mais la couverture du tas de betteraves, c'était aussi pareil. Il fallait d'abord mettre une couche de paille sur les betteraves, bien protégées. D'abord, bien ranger le tas, bien en prendre. Après, une couche de paille, une bonne couche de paille, et après, c'était des broussailles, quelque chose qui empêchait l'eau de rentrer. Mais toujours une bonne couche, comme on disait tout à l'heure, sur le foin, on mettait une bonne couche de paille pour empêcher de l'eau de pénétrer. Ici, c'était exactement la même chose, parce que et il suffit qu'un tas de betteraves, il y ait un trou, par exemple, que l'eau pénètre, et ben, un coup de gel, et puis ça y est, on a déjà un tombereau ou deux ou trois vite fait de gelée, donc une betterave, surtout en ce temps-là, les betteraves qu'on avait, c'était des betteraves fourragères avec des taux de matière sèche en dessous de 10, donc plein d'eau. Et alors un coup de gel, et puis ça y est, tout le tas. Et après une betterave qui est pourrie, on pourrissait d'autres, et ainsi de suite. C'était là vraiment une grosse perte.
Ah, mais les nègres, on avait fait un temps dans l'allée, une année, en 61. Et c'est au mois de février qu'il y a eu le gel, là. Donc l'étang, que beaucoup connaissent, il a été tout gelé pendant tout le mois de février. Le tas de betteraves, il était dans l'allée. Il fallait aller à la pioche pourtant, on avait mis une bonne couche de lande dessus, mais il fallait aller à la pioche pour les décoller. Encore. Enfin, tu décolles, tu en avais une douzaine en même temps. Et ça a duré 15 jours, 3 semaines. Ça va durer longtemps. Hein.
C'était un 60e, le délai.
Et alors, quand on donnait des betteraves aux bêtes,
comment on appelle ça ? On les coupait en tranches.
Oui.
Donc,
j'en ai